Moi, je pense que l'avenir est dans les bocages et dans l'agroforesterie. Le jour où on aura mis beaucoup de végétation partout, ce sera la microfaune, tous les petits insectes à pattes qui vont permettre la dissémination de bactéries et de champignons un petit peu partout. Mais comme là, on est dans des endroits vraiment nus, dévastés, avec les sols abîmés, ben, nous avons besoin d'aller rechercher de la vie dans la forêt pour les remettre dans ces champs malmenés.
L'alifofer, en fait, c'est une solution artisanale qui consiste à multiplier, à créer soi-même sa solution à base de micro-organismes. Et donc, ça a été développé en Amérique du Sud dans une perspective d'autonomie, en fait, puisque les paysans, en lien avec des scientifiques, se sont rendus compte qu'ils étaient en mesure de faire eux-mêmes cette préparation et donc d'être moins dépendants des intrants du commerce.
L'alifofer contient énormément de micro-organismes, à peu près tous les micro-organismes présents dans le sol. Dans la litière forestière, il y a tous les germes de la vie du sol qu'on va pouvoir multiplier par rapport à une lactofermentation. Donc la fermentation, c'est la multiplication des êtres vivants. Et c'est là que c'est un petit peu différent, c'est qu'on va retrouver des millions de fois plus de micro-organismes dans une alifofer que dans un compost.
On a finalement maintenant différentes tailles de fermes qui utilisent l'alifofer. Et en fait, ce serait plutôt nos adversaires qui nous cantonneraient finalement aux petites fermes tranquilles. Au final, c'est pas vrai. On peut faire de l'agroécologie à toutes les échelles. Ouais. C'est pour ça qu'on reste ouvert au dialogue et on veut pas se fermer. On a même des agriculteurs conventionnels qui sont dans une démarche d'amélioration, en fait, dans notre réseau.
Donc 2-3 mètres carrés de forêt me permettent de fertiliser 20 à 30 hectares. Ou alors si je fais 10 traitements à l'année, ce sera sur 2 ou 3 hectares. Donc on a fait toute une série d'expérimentations sur différents polluants. On n'a jamais réussi à tuer l'alifofer. Dans tous les polluants, il y a des micro-organismes qui se développent et qui commencent à régler le problème. Les micro-organismes sont là depuis des milliards d'années. Il est arrivé des tas de choses sur la planète. Ils sont toujours là, quoi.
Bonjour à toutes et tous. En choisissant de réaliser un épisode sur la litière forestière fermentée, la lifofer, je n'imaginais pas qu'un univers aussi grand allait s'ouvrir à moi. Une ouverture aussi grande que la générosité avec laquelle l'association Terre et Humanisme m'a offert ses savoirs, et en particulier Victor et Valo, que je tiens à remercier pour le temps qu'ils m'ont octroyé. Je remercie aussi Anna, qui a prêté sa voix au podcast pour partager des extraits de bibliographie sur la lifofer. Je profite de cette courte introduction pour remercier les personnes qui m'ont fait des dons sur Tipeee en décembre et janvier. Nicolas, Pascal, Pierre, Amandine, Anna, Vanessa, Sabine et Maëlle. J'ai aujourd'hui 6 personnes qui me soutiennent chaque mois et vous n'imaginez pas le bien que cela fait de recevoir de l'argent pour réaliser ce qui m'anime profondément. Cet épisode a été réalisé en ligne. Je m'excuse par avance pour l'écho très léger et les petits bruits que vous entendrez parfois. Et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue dans le podcast Agroécologie Voyageuse. Bonjour Victor, bonjour Valo. Alors, moi je suis dans ma yourte en Bretagne, et vous, d'où est-ce que vous me parlez ?
Ben, nous sommes dans les greniers de Terre et Humanisme, greniers aménagés en bureaux. Comme Terre et Humanisme a énormément augmenté ces 20 dernières années, on a dû trouver un petit peu de la place un petit peu partout pour que tout le monde puisse travailler.
Bonjour Opaline.
Je viendrai vous rencontrer un jour, j'espère, mais là c'est vrai que ça faisait un petit peu loin, donc on a choisi la visio. Alors, en novembre 2023, ont eu lieu les Journées nationales de la lifofer, la litière forestière fermentée. J'avais eu vent de l'événement par mon ami Hervé Covès qui avait fait circuler l'info. Le programme était très riche, je n'ai pas pu venir, mais ça a suffisamment attisé ma curiosité pour entrer en lien avec vous et creuser le sujet. Personnellement, j'ai jamais fait utiliser de lifofer,
juste du bokashi quand j'étais au Japon. Et durant cette journée, paysans, chercheurs, techniciens, jardiniers et animateurs, plus de 100 personnes étaient réunies pour échanger connaissances, savoir-faire, partager des résultats d'essais sur le terrain, se rencontrer et avancer collectivement sur la compréhension et l'utilisation d'une méthode artisanale, économique et accessible à tous pour réintroduire de la vie dans les sols et améliorer la qualité et la santé des cultures face au manque d'eau et à l'augmentation des températures liées au changement climatique. Alors, c'est une seule phrase que tu as partagée, Victor, sur un post LinkedIn. Désolée, c'était un peu long, je me rends compte en la lisant. Et je trouve que ça résume bien un peu l'émulation qui a eu lieu pendant cette journée. Alors, l'intention de cet épisode, parce qu'on va pas pouvoir parler de tout, puisqu'il y a déjà eu deux journées, et j'imagine que ces deux journées-là en novembre n'étaient pas suffisantes pour échanger sur tous les sujets autour de la LIFOFER. Donc, l'intention, en fait, ici, c'est d'ouvrir une porte et d'inspirer les gens qui nous écoute à explorer le monde de la LIFOFER et pourquoi pas la tester. Moi, je suis sûre que ça va me donner envie d'en faire, j'ai déjà envie. Et pour commencer, alors, je vais tirer une petite carte et vous poser une question. Alors, je vous laisse me dire un chiffre entre 1 et 4, chacun d'entre vous.
1,
2.
Ok. Alors, Victor, quand as-tu été ému pour la dernière fois et pourquoi ?
Dans ma vie personnelle ou en général ?
Comme tu veux.
La dernière fois que j'ai été ému pour la dernière fois. En fait, si je devais répondre sincèrement, ça va être un peu sinistre. Parce que, en fait, j'ai vécu en Colombie pendant longtemps et donc ce matin, j'ai une amie très proche à moi qui m'a appelé pour me dire que son frère, que je connais très bien, est entre la vie et la mort. Et parce qu'il a eu un accident de la route. Donc voilà. Je suis désolé de partager une anecdote un peu sinistre, mais voilà, c'est la vérité. Donc je suis un peu dans cet état d'esprit actuellement, mais voilà. Mais la Colombie, du coup, revient à ma mémoire aussi pour plein d'autres raisons, notamment parce que c'est là-bas que j'ai appris à faire de la LIFOFER.
Waouh! Merci d'être aussi sincère et de partager ça, et d'être là malgré tout. Alors Valo, est-ce que tu peux me parler de quelque chose qui te met en colère ?
Me met en colère, hein, c'est marrant. Il y a justement Miguel Nau qui travaille beaucoup avec nous sur les plantes bioindicatrices, et on a fait beaucoup d'expérimentations ces dernières années, et qui me demandait « Mais toi, qu'est-ce qui te met en colère ?» Et en fait, je reconnais qu'il n'y a plus grand-chose qui me met vraiment, vraiment en colère. Je crois que quand même la dernière chose qui m'énerve encore un tout petit peu, c'est l'utilisation des produits chimiques dans le vivant, que ce soit en agriculture ou en médecine.
Merci. Merci d'être ouvert à ces questions qui font partie d'un petit jeu qui s'appelle l'Anti-Sava, un petit jeu que j'aime beaucoup. Alors, on pourrait dire que la LIFOFER était un bon prétexte pour faire un épisode avec Terre et Humanisme. Alors moi, je vis agroécologie tous les jours, à l'intérieur, à l'extérieur. Et le podcast s'appelle Agroécologie Voyageuse. Et pourtant, j'avais jamais prévu de faire un épisode avec Terre et Humanisme, tout simplement parce que je crois que vous êtes trop loin et que j'aime bien rencontrer les gens en vrai. Alors, le mot LIFOFER a été inventé par Terre et Humanisme, si je ne me trompe pas.
Tout à fait, ça a été inventé par les stagiaires. Souvent, on trouvait que le terme de litière forestière fermentée était trop long. Au départ, c'était litière forestière lactofermentée, parce qu'il s'agit de lactofermentation. Mais ça faisait LFLF, c'était rébarbatif. Donc, chaque fois que j'étais en stage avec des stagiaires, on dirait, mais il faut trouver un vocabulaire beaucoup plus sympa qui tourne, qui roule dans la bouche pour en parler, quoi. Et petit à petit, c'est devenu LFLF, puis LFF, et puis un jour, il y en a un qui a sorti LIFOFER, et là, ça sonnait vraiment bien, parce que ça sonnait aussi, on avait le slogan qui allait avec, la LIFOFER, il faut la faire.
Wow.
Belle allitération.
Trop bien. Ouais, du coup, Terre et Humanisme, et la vision de l'agroécologie de Terre et Humanisme, ce qui n'est pas la même que celle de tous les acteurs qui parlent d'agroécologie.
C'est moi qui m'y colle. Aïe. La vision de terre-humanisme, elle est née surtout de la pensée de Pierre Rabhi, au départ. Terre-humanisme a remplacé l'association Les Amis de Pierre Rabhi. Et donc, il y avait une dimension très humaine dans l'agroécologie. Parce qu'on peut travailler la terre, on peut travailler avec des animaux, mais comme disait Pierre, on peut aussi exploiter son voisin. Donc pour nous, la dimension humaine est très importante, la manière de travailler en collectif, se respecter, ne pas se surcharger de travail, et voilà, d'inventer de nouvelles façons de fonctionner. Et c'est comme ça que depuis de nombreuses années, maintenant, en Terre Humanisme, nous sommes en gouvernance partagée, pour le bien et le pire, parfois. Mais c'est une très belle aventure qui se passe très bien, pleine de rebondissements.
Et si je peux compléter, du coup, c'est une association qui a maintenant 30 ans. On va fêter nos 30 ans, en fait, en 2024, et qui développe des activités en France et à l'international. On a trois lieux principaux d'action. C'est le Mas de Beaulieu, là où on est actuellement, en dessous d'Ardèche. On a une antenne à Ouagadougou, Burkina Faso. Et on a également une ferme paysanne qui s'appelle La Noria, qui est située dans les Cévennes, dans le nord du Gard, qui a été acquise par l'association il y a un peu plus d'un an. Et donc, nous, on organise des formations courtes et longues, également des séjours en immersion pour transmettre des savoir-faire dans nos jardins pédagogiques ici au Mas de Beaulieu. Mais on accompagne aussi des projets de solidarité en France et à l'international. Donc, ce qui fait qu'on a formé beaucoup d'animateurs, par exemple, en agroécologie, qui eux-mêmes ensuite transmettent l'agroécologie sur leur territoire ou mènent des projets de transition. Donc, même si on est trop loin, comme tu disais, en fait, on a des animateurs en agroécologie de TH partout en France, parce que le programme existe depuis presque 15 ans, et au final, c'est des centaines et des centaines de personnes qui ont été formées à Terre Humanisme et qui transmettent notre vision de l'agroécologie.
Donc, nous t'invitons le 6 juin à participer à notre assemblée générale en Sud-Ardèche.
Bien
Ce
vu.
sera l'occasion de venir nous rencontrer et nous invitons évidemment tous les auditeurs de ce podcast.
Alors, il y a l'AG le 8 et le 9, il y a la fête des 30 ans. Donc,
Ah oui.
oui, il ne faut peut-être pas confondre. Enfin, le 8, du coup, ça s'adresse aux adhérents de Terre Humanisme et le 9, ça s'adresse à tout le monde, à tous ceux qui souhaiteraient participer à cette grande fête.
Et 30 ans, ça se fête, ça c'est sûr. Waouh! J'ai trouvé cette phrase dans le petit manuel, le manuel de la litière forestière fermentée qui date de 2021 et que tu as écrit Valo avec l'aide, en remerciant tout un tas de personnes à la fin. J'ai trouvé cette phrase: en agroécologie, on cherche un équilibre entre les bactéries et les champignons, adapté aux cultures en place. Ayant lu le manuel, ça me fait vraiment penser à cette phrase que m'avait dit un paysan japonais: le bokashi est un pont entre la forêt et le champ. Je pense que la LIFOFER s'est amenée un peu de l'intelligence de la forêt dans notre agriculture qui a un peu bazardé les arbres. Que pensez-vous de ça? Et puis, comment la LIFOFER est entrée dans Terre et Humanisme, en fait?
Oh, ça c'est une question vaste. Donc du constat du lien entre la forêt et les champs cultivés, c'est malheureusement que nos champs cultivés ont été bien abîmés par des décennies de pratiques d'agriculture conventionnelle et parfois aussi de bio-industrielle. Et donc là vraiment la vie du sol a été vraiment malmenée et il y avait vraiment besoin de remédier à ça. Même si on arrive avec les pratiques agroécologiques classiques à améliorer les choses, un moindre travail du sol, le compost, les engrais verts, les différentes préparations à base de plantes comme les extraits fermentés, ça nous donnait déjà de bonnes armes pour rééquilibrer les sols, mais c'était pas suffisant. Moi, je pense que l'avenir est dans les bocages et dans l'agroforesterie. Le jour où on aura mis beaucoup de végétation partout, ce sera la microfaune, tous les petits insectes à pattes qui vont permettre la dissémination de bactéries et de champignons un petit peu partout. Mais comme là on est dans des endroits vraiment nus, dévastés, avec les sols abîmés, ben nous avons besoin d'aller rechercher de la vie dans la forêt pour les remettre dans ces champs malmenés.
Les champignons dominent sur les sols forestiers, les bactéries dominent sur les sols cultivés. En agroécologie, nous cherchons à retrouver un équilibre entre les bactéries et les champignons. Toute la subtilité réside dans l'équilibre qui est différent en fonction de ce que l'on souhaite produire. En maraîchage, Les plantes cultivées sont souvent annuelles et grandissent vite. Elles ont besoin d'une alimentation riche et soutenue avec une dominance de l'activité bactérienne apportée par le compost, le fumier, l'épaillage au rapport carbone-azote bas. Dans un contexte plus forestier ou de plantes ornementales, les plantes poussent plus lentement et auront besoin d'apports de broyat au sol qui maintiendront une alimentation à dominance fongique. Si l'on se rapproche d'une situation arboricole ou de jardin-forêt, il faudrait tempérer cela avec des engrais verts vivaces qui seront fauchés sur place pour un apport plus important de minéraux. L'apport d'extraits fermentés favorisera l'équilibre des populations fongiques et bactériennes.
Donc, à la question d'où vient la litière forestière fermentée, c'est un ami d'Éric, Dorian Félix, qui est parti à Cuba. Sa femme est cubaine, il connaît très bien le milieu là-bas. Faire une petite étude sur l'agroécologie à Cuba. Et il a tiqué sur une petite préparation magique que les Cubains faisaient. Préparation qui est faite un petit peu partout en Amérique centrale et un petit peu en Amérique du Sud aussi, qui s'appelle les micro-organismos de montañas. Donc il est revenu de son petit voyage, il a dit « là j'ai trouvé un petit truc qui est intéressant et tout ». On a commencé à le faire, la première préparation a été faite dans mon village, pour voir un petit peu ce que ça donnait. On a commencé à faire nos premières expérimentations, et quand on a vu le résultat qu'on avait directement pour épurer l'eau, ça nous a poussé à faire de plus en plus d'expérimentations sur le sol, la plante, etc. quoi. Et petit à petit, ça a abouti à un réseau d'expérimentateurs qui s'est diffusé sur plusieurs départements.
Alors, du coup, c'est pas exactement TH qui a inventé la lifofer, puisque c'est issu d'une pratique artisanale qui existe déjà en Amérique latine particulièrement, mais qui vient même du Japon à l'origine, puisque c'était les premiers à théoriser l'utilisation des micro-organismes dans l'agriculture. Donc, il y a déjà une littérature scientifique par rapport à ça. Et dans le commerce, il existe ce qu'on appelle les EM, les micro-organismes efficaces, mais qui sont une solution issue d'un laboratoire. La lifofer, en fait, c'est une solution artisanale qui consiste à multiplier, à créer soi-même sa solution à base de micro-organismes. Et donc, ça a été développé en Amérique du Sud dans une perspective d'autonomie, en fait, puisque les paysans, en lien avec des scientifiques, se sont rendus compte qu'ils étaient en mesure de faire eux-mêmes cette préparation et donc d'être moins dépendants des intrants du commerce. Et en fait, en France, Café Valo, avec ce qu'avait rapporté donc Dorian Félix, qui était un service civique agronome envoyé par Terre et Humanisme, ce qu'il a fait, c'est un peu d'adapter la recette à notre climat tempéré, parce que c'était utilisé en climat tropical, et de voir quels ingrédients on pouvait échanger pour la faire ici, et de voir si effectivement ça réagissait de la même façon, puisqu'on n'est pas sur le même type de sol. Donc c'est là que vraiment le début de la lifofer en France a commencé. Mais il faut bien garder à l'esprit que c'est déjà une technique utilisée depuis les années 90 en Amérique du Sud et qui est assez courante dans ces pays-là. Moi, j'ai parlé un petit peu rapidement en introduction de la Colombie. Dans les milieux de l'agroécologie, c'est transmis de paysan à paysan depuis des années et c'est couramment utilisé par les agriculteurs. Moi, je travaillais en particulier avec les producteurs de café qui amélioraient leur sol par là et avec la lifofer, avec les micro-organismes de montagne, comme disait Valo, améliorer leur sol, protéger leur culture également, éventuellement améliorer l'état de santé des animaux. Il y a plein d'usages différents, on pourra y venir.
Ouais, c'est assez fou quand même, je court-circuite un peu mes questions pour... Oula, il y a une poule qui a frappé à la fenêtre de manière un peu violente. Je pense à l'agriculture syntropique parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de sagesse agronomique, agroécologique qui arrive en France après avoir été couvée dans les pays tropicaux, notamment l'agriculture syntropique qui est de l'agroforesterie en fait très très complexe et en même temps très simple, qui est faite depuis la nuit des temps par les peuples d'Amazonie notamment. Et là, la lifofer, enfin en tout cas les micro-organismes bénéfiques, c'est quelque part quelque chose qu'on récupère de pays. Et nous, je sais pas si un jour on l'a fait, ce genre de préparation. Peut-être pas, enfin, vous allez peut-être pouvoir répondre à cette question. Et du coup, une des questions qui me vient, c'est ça veut dire que les paysans sur place, dans ces pays dont vous parlez, ils avaient tout dans leur ferme ou dans les environs pour faire la lifofer, que ce soit les sucres, la forêt évidemment, toutes les matières un peu carbonées, ligneuses, comme le son par exemple. Tout ça, c'était présent sur place.
Oui, bien sûr. Bah, surtout la canne à sucre, en fait, qui est produite en masse en Amérique du Sud, Colombie. On le sait moins par rapport à l'Argentine, mais c'est la deuxième culture, je crois, du pays, qui permet de faire de la mélasse de canne à sucre, qui est du coup extrêmement concentrée en sucre et en minéraux. Et du coup, c'est une ressource locale pas chère du tout, qu'ils ont à profusion. Et également, le son de riz aussi, qui est très facile à procurer. Le petit lait, naturellement, c'est facile également. Et la litière de forêt, bah, c'est celle qu'on a chez soi, en bordure de ses champs. Et donc, en fait, on va aller chercher des micro-organismes endogènes et non pas exogènes, qui vont être plus susceptibles de s'adapter à sa parcelle agricole, en quelque sorte. Donc voilà, c'est plus cohérent que d'aller chercher des solutions qui ont été faites, on ne sait pas comment, on ne sait pas avec quel micro-organisme.
Donc finalement, faire de la lifofer ici, dans notre contexte en France, je ne sais pas si par exemple un céréalier de la Beauce veut faire de la lifofer. Bon, après, on va reparler de la lifofer purement, mais je me questionne sur... est-ce qu'il a... En fait, il va peut-être devoir aller chercher certaines choses assez loin, puisque... La diversité des productions sur place s'est amoindrie par rapport à il y a quelques dizaines d'années où il y avait beaucoup plus de diversité, il y avait de l'élevage, il y avait sans doute plus de facilité à avoir du sucre sur place. Voilà, c'est une réflexion que j'avais.
Tu prends un cas un peu extrême, tu prends le cas d'un désert. La Beauce est devenue un désert écologique. Donc vraiment, il aura un problème pour trouver de la litière forestière, mais il pourra aller chercher pas trop loin, dans des zones avec le même type de sol. Après, sur les types de sucre, il y a toujours moyen de trouver un apiculteur, des restes de pommes. On peut prendre n'importe quelle source de sucre qu'on trouve, et puis n'importe quelle fibre qui apporte des hydrates de carbone. Après, c'est à chacun un peu de mijoter sa recette par rapport à ce qu'il trouve en local.
Et alors, toi, Valo, tu dis dans la vidéo Le murmure de la terre, que je pourrais peut-être partager dans les ressources avec ce podcast.
Et en fait, il faut voir la lifofer comme un probiotique. C'est du yaourt. Hein? Alors si tu es en bonne santé, tu n'as pas besoin de yaourt. Mais tu peux en manger de temps en temps quand même. Mais si tu as des problèmes, que ce soit naturel ou bien à cause de chimio ou à cause de trop d'antibiotiques, tu dois manger beaucoup de yaourt pour restaurer ta flore et remettre ton système de défense immunitaire en place. Ben, la lifofer, elle va jouer un petit peu ce rôle-là dans toutes les terres qui sont fragiles, qui sont faibles, qui ont été polluées.
Est-ce que du coup, à travers, avec cette phrase, tu peux nous expliquer un peu plus comment fonctionne la lifofer, ce qu'elle contient, etc.
La lifofer contient énormément de micro-organismes, à peu près tous les micro-organismes présents dans le sol. Dans la litière forestière, il y a tous les germes de la vie du sol qu'on va pouvoir multiplier par rapport à une lactofermentation. Comment est-ce qu'on arrive à garder tous ces micro-organismes dans une lactofermentation en anaérobie? C'est encore un petit peu un mystère, mais apparemment, ça marche. Mais il y a aussi tous les produits que les micro-organismes vont faire dans le milieu. Il y a des tas d'enzymes, des tas de molécules de défense qui sont mises dans le produit. Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va être plus ou moins efficace dans un cas ou l'autre. Là, c'est la recherche qui nous en apprendra plus. Maintenant, de manière pragmatique, on voit bien que ça marche. Et c'est un gros problème que j'ai rencontré un peu partout. C'est la lifofer est un biofertilisant. Combien dois-je en mettre pour augmenter mes productions? Là, je suis pas du tout d'accord. La LIFOFER ne sert pas à augmenter les productions, mais c'est de rétablir un équilibre. Et on a vu dans les différentes expérimentations avec les maraîchers qui étaient soit en bio, soit en agroécologie depuis des années, qui avaient un sol qui fonctionnait, ben là, on ne voyait pas beaucoup de résultats. Par contre, c'est sur les terres les plus dégradées, quand on commence du maraîchage dans un pré peu fertile ou dans la vigne qui est assez bien martyrisée, c'est là qu'on avait le plus vite de beaux résultats. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette image par rapport à notre flore intestinale et l'utilisation des produits chimiques en pharmacopée.
Ouais. Pour ceux qui voudraient réentendre ou qui ne connaissent pas cette comparaison, c'est vrai que notre intestin, c'est comme le sol. Et c'est la diversité des micro-organismes à l'intérieur qui font qu'il y a un équilibre et qu'on peut se sentir bien et ne pas tomber malade. Et le sol, c'est grosso modo, c'est pareil. C'est un gros raccourci, mais...
Le sol, les micro-organismes sont en intestin. Oui. Il y a encore beaucoup de gens en bio ou même en agroécologie qui apportent de la matière organique pour nourrir la plante. Ils sont dans une impasse. On nourrit les micro-organismes et les micro-organismes vont libérer des nutriments qui vont nourrir la plante. Et il faut bien comprendre la complexité de la vie du sol qui fonctionne comme un intestin. Oui, je dis aussi souvent que la LIFOFER se fait en deux fermentations. On prépare une mère solide, une fois ou deux fois par an, qu'on va ensuite réutiliser en petite quantité dans une deuxième fermentation liquide pour l'utilisation sur le terrain.
Chercher les micro-organismes dans la forêt. Ce que je cherche, c'est la litière un peu pourrie comme ça, avec plein de champignons là. Ça, c'est top. Et on va faire une double fermentation avec ça. On va commencer par une choucroute, une fermentation solide pour multiplier tous les micro-organismes. Et on va les nourrir avec du son de blé, des hydrates de carbone, de fibres, quoi. De la mélasse, des sucres rapides pour booster, et un petit peu de petit lait que tu as amené. Pour lancer la fermentation lactique, comme la choucroute. Et maintenant, vous mélangez, vous pouvez peut-être étaler en longueur, ce sera plus facile. Et mélanger le tout le plus intimement possible. Et ça, c'est le mélange des solides. Et à côté, je vais préparer le mélange des liquides, la mélasse, le petit lait, et avec de l'eau de source. Okay. Donc je dis souvent que la litière forestière solide, c'est la choucroute de la terre. Et la deuxième fermentation, c'est la bière.
Dans le livre, il est écrit que c'est bon signe quand il y a une odeur semblable à la fermentation du vin, de la bière ou des levains de céréales. C'est la preuve du bon déroulement de la fermentation. Ça donne envie d'en manger. Et d'ailleurs, dans le film, j'ai été surprise et pas tant en même temps. Une personne de l'équipe que je ne connais pas qui est en train de pulvériser sur des carottes. Et à un moment, il pulvérise dans la bouche d'un bénévole qui est en face. Et finalement, c'est là que j'ai fait le lien avec la LIFOFER, en fait, c'est un probiotique aussi, quoi.
Oui, tout à fait. Ça peut être utilisé pour les animaux d'élevage. Pour avoir une meilleure santé, une meilleure digestion, moins de problèmes de verre intestinaux, etc. Mais si les cochons peuvent en boire, nous aussi, on n'est pas très loin au niveau du morphisme. Donc, nous avons bu de la LIFOFER régulièrement depuis des années. Ça a été même la première expérimentation. Quand on apporte un nouveau produit, il faut prouver qu'il n'est pas toxique, qu'il n'est pas dangereux, qu'il ne contient pas de pathogènes. Et comme nous avons très peu moyens de faire des expérimentations, les meilleurs cobayes, c'était nous. Donc on en a bu avec des stagiaires, avec des volontaires, avec plein de gens. On se fait régulièrement des apéros à LIFOFER.
Bon, j'ai hâte de venir en juin alors. Et alors, juste pour bien comprendre, parce que moi, j'ai un peu du mal des fois avec anaérobie, aérobie, etc. Je vais poser une question bête exprès pour qu'on puisse bien comprendre le processus. C'est quoi la différence avec du compost dans lequel on aurait mis plein de feuilles mortes?
Le compost qui a plein de feuilles mortes, ben, il va se décomposer en aérobie et il va relibérer ses nutriments. Ça va se transformer en précurseur d'humus, qui, une fois mis au jardin, deviendra de l'humus qui permettra de nourrir les plantes avec la libération des nutriments. Là, nous sommes dans une lactofermentation. Donc la fermentation, c'est la multiplication des êtres vivants. Et c'est là que c'est un petit peu différent, c'est qu'on va retrouver des millions de fois plus de micro-organismes dans une lifophère que dans un compost.
C'est vraiment passionnant.
Il y a très peu de matière dans une lifophère liquide, mais il y a énormément de micro-organismes.
Ça me fait penser à quand on s'était appelé Victor pour envisager l'épisode, tu m'avais parlé aussi de potentielles recherches sur la nutrition des légumes, des produits qui seraient issus d'une culture avec de la lifophère. Tu peux peut-être en dire deux mots ?
Oui, bah alors c'est une expérimentation qu'on est en train de réaliser actuellement sur la ferme de la Noria. On travaille sur des cultures de, pour l'instant, d'épinards et chou-rave. Et on va lancer là d'autres expérimentations, notamment sur salade, melon, roquette. Et en fait, ce qu'on essaye de savoir, c'est que du coup, si tu cultives des légumes avec un probiotique qui fait du bien à la terre et qui apporte des nutriments aux légumes, logiquement, tu devrais avoir des légumes qui sont plus chargés en nutriments, qui sont de meilleure qualité nutritionnelle. Mais en fait, on n'a jamais réalisé les études pour en laboratoire. Et là, justement, on a obtenu un budget, on fait un projet avec la Fondation Carasso, du comment, justement, pour essayer de faire ce lien, du coup, pour voir si vraiment ça améliore la qualité nutritive des aliments. Et ça, ce serait un bond en avant gigantesque, je pense, pour les faux-fers. Mais je ne sais pas si on arrivera à le prouver, mais au moins, on collecte des informations là-dessus. Et en fait, ça rejoint l'idée qu'on sait déjà que les aliments lactofermentés sont extrêmement bons pour la santé. Et donc là, on est sur une solution lactofermentée aussi, qui va aller dans la terre. Et donc, si tu arrives à boucler cette boucle, d'un côté, c'est magnifique, c'est très intéressant pour l'agriculteur. C'est peut-être encore plus valorisant et gratifiant pour cet agriculteur de pouvoir se dire, en fait, grâce à ça, je suis sûr de produire des aliments de bonne qualité qui vont contribuer à la bonne santé des gens. Et là, c'est tangible, en fait. On sait que derrière, on produit des légumes qui vont être qualitativement supérieurs, en fait, aux autres offres sur le marché. Puisqu'il suffit pas de manger des légumes seulement pour être en bonne santé. Il faut voir quels légumes on mange. Il suffit pas non plus qu'ils soient exempts de pesticides ou de métaux lourds, mais il faut aussi qu'ils soient riches au niveau minéral et nutritionnel. Et donc, voilà, si on arrive à faire ce lien, ce serait vraiment très intéressant. Après, juste sur cette expérimentation, on travaille avec d'autres fermes aussi, qui ont parfois des très grandes surfaces, qui cherchent des méthodes pour réduire le travail du sol. Et donc, notre expérimentation, elle cherche à démontrer de manière de plus en plus cadrée et scientifique, parce que nous, en fait, on n'a pas besoin d'être convaincu de quoi que ce soit, on sait, c'est tout. Mais c'est pour convaincre, en fait, la majorité des gens. Ici, on a besoin de la preuve scientifique, ce qui n'était pas forcément le cas en Amérique latine quand moi j'y étais. C'est-à-dire que le paysan, il essayait, ça lui allait, il continuait ou pas. Mais selon son observation, il arrêtait ou il continuait. Ici, en France, ça met plus de temps avant de se répandre, avant que les gens aillent vers des nouvelles méthodes. Il faut des rapports scientifiques, des preuves A plus B. Donc, nous, on renonce pas à ça. On est sur les deux pistes, un peu. On a un réseau d'expérimentateurs de terrain qui sont sur l'expérimentation paysanne, et on est sur des pistes plus scientifiques, plus conventionnelles. Et donc là, par exemple, sur ce projet d'expérimentation, on travaille sur une exploitation de melons dans l'Hérault, qui a peut-être 200 hectares en maraîchage. Mais d'un côté, si on arrive à convaincre ces gens-là que, du coup, on peut réduire le travail du sol grâce à la lifophère, eh ben, ça fait un impact non négligeable au final, parce que moins d'utilisation de machines, moins d'utilisation d'entrées.
Alors, au risque de me faire huer, je pose là que ça casse une idée reçue que j'avais sur Terre Humanisme, qui était que vous ne travaillez que avec des petites fermes. Et en fait, non. Et ça, c'est chouette, parce que il faut travailler avec toutes les tailles de fermes. Et tous les types de pratiques, quoi. une petite ferme, j'entendais, je sais pas, 2-3 hectares de maraîchage, grand max, quoi.
Nous sommes ouverts à tous les partenariats. Au départ, on travaille avec des petites fermes, avec des copains, avec des gens qu'on a identifiés, etc. Et comme pour les expérimentations avec la lifophère, ben on défriche. On fait quelques petits tests à gauche, à droite. Et puis, on voit ce qui nous parle. La vigueur des plantes, la succession des plantes bioindicatrices sur un terrain qui nous renseigne de l'évolution de son sol. Voilà, on a des petites choses. Mais ça ne suffit pas à convaincre le grand nombre. Donc, on a besoin de se retourner vers des partenariats plus scientifiques ou avec des plus grosses fermes pour faire des expérimentations mieux cadrées pour avoir une meilleure preuve de ce qu'on fait, quoi. Mais nous sommes déjà convaincus depuis un petit moment.
Et puis on a finalement maintenant différentes tailles de fermes qui utilisent la lifofer. Et en fait, ce serait plutôt nos adversaires qui nous cantonneraient finalement aux petites fermes tranquilles qui font dans leur coin. Alors qu'au final, c'est pas vrai. On peut faire de l'agroécologie à toutes les échelles. Et voilà, c'est pour ça qu'on reste ouvert au dialogue et on veut pas se fermer même. On a même des agriculteurs conventionnels qui sont dans une démarche d'amélioration en fait dans notre réseau. Donc qui sont sur des très grandes cultures. Je pense par exemple au GI2E Magellan, c'est un groupe d'agriculture qui est dans la Nièvre. Ils travaillent sur des très grandes surfaces. C'est des agriculteurs qui ont au moins 200 hectares chacun en grande culture. Et ben ils s'intéressent à l'amélioration de la fertilité du sol, au semis sous couvert végétal et la litière forestière fermentée est une des solutions qu'ils expérimentent. Justement pour aller vers cette démarche de moins d'intrants, moins de travail du sol. Donc on s'interdit pas du tout de parler avec eux, même si on nous demande quelle agriculture on défend, on restera proche de nos valeurs et ferme sur le fait qu'on défend absolument pas l'agriculture conventionnelle telle qu'elle est faite aujourd'hui. Seulement il y a des manières en fait d'aborder les sujets avec les personnes et il y a des étapes, je dirais, dans la transition. Par exemple, on est contre le glyphosate, clairement, on n'est pas du tout pour la prolongation de l'autorisation des glyphosates sur 10 ans, on trouve ça écœurant. C'est pas du tout ça que je veux dire, mais on est pour l'accompagnement, en fait, au contraire. Donc, en fait, quand on travaille avec des agriculteurs conventionnels, eh ben, on est dans la démarche d'accompagnement, de montrer comment on fait la technique, que les personnes se les approprient, qu'on aille faire avec eux des tests avec des témoins, etc. Et là, on est dans une démarche de changement. Plutôt que d'être dans une démarche moralisatrice, dire de toute façon, on ne parle pas avec vous parce que vous êtes conventionnel et pas moi.
J'ajoute que c'est assez récent dans l'histoire de Terre et Humanisme d'avoir des partenariats avec des conventionnels. Nouvelle aventure.
Bah ouais, moi je suis. Enfin, ce que tu viens de partager, Victor, ça me parle totalement. Moi, je suis. En centre-Bretagne, dans un écolieu avec des énormes fermes industrielles autour des cochons, des poulets, des poules pondeuses qui ne voient jamais la lumière. Et je vais les voir de temps en temps, boire le café pour comprendre un peu ce qu'ils vivent et pour faire des ponts, un peu comme le bokashi et la lifofer entre la forêt et les champs. Bah, faut aussi se parler un petit peu, mais tout en restant ancré dans ses valeurs. Et ça, c'est un sacré défi.
Tout à fait. Parce qu'il faut pas leur dire à tes voisins, hein, s'ils utilisaient de la lifofer dans leurs élevages, il y aurait moins d'algues qui se développeraient au bord de mer. Hein. Mais il faut pas leur dire parce que ça cautionnerait leur manière de fonctionner.
Ouais.
Il vaut mieux des fois leur laisser là où ils en sont et qu'ils s'enterrent s'ils vont trop loin.
Hein. Ouais. En tout cas, on pourrait discuter longuement sur les manières d'accompagner. Alors, pour revenir à la lifofer, avant de parler un peu plus de comment la mettre en œuvre, j'ai vu notamment qu'il y avait Valérie Grolot, que je connais bien, qui est intervenue pendant les journées lifofer, je crois.
Il a annulé sa présence quelques jours avant pour des raisons personnelles, mais il avait participé à des précédentes rencontres à distance. Ce qui est intéressant, c'est que donc, c'est un agriculteur en grande culture qui est installé, il me semble, en Vendée. Qui expérimente donc la lifofer, qui en fait vraiment à grande échelle. Il fait des cuves de 1000 ou 2000 litres, si je ne m'abuse. Et ça fait plusieurs années qu'il met en place des essais. Il est dans une démarche d'expérimentation aussi avec des bancs de témoins. Et puis, il partage avec ses collègues agriculteurs et il fait des émules. Et on est vachement content parce que c'est un coin de la France où on est moins présent.
Ouais.
Et donc, il relaie pas mal la technique de la lifofer. Il a des résultats intéressants sur l'amélioration du sol et des cultures.
Et j'ai vu, alors j'ai pas vu du coup le diapo de Valérie ou la présentation de Valérie, il faudra que je l'interviewe, je pense, il est un peu plus près de chez moi. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait, des résultats, alors même si l'objectif c'est pas d'augmenter les rendements, le premier objectif, mais il y a quand même des résultats sur le rendement. En grande culture et j'imagine dans toutes les productions. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ça ? Tout ce que produit la LIFOFER, finalement, le résultat final, c'est le rendement qui augmente. Voilà, est-ce qu'on peut faire un petit tour des propriétés de la LIFOFER, de ce qu'elle réalise quand on la fait bien ?
La LIFOFER, elle accélère surtout la décomposition de la matière organique. Pour une meilleure assimilation des nutriments par les plantes, par la vie du sol et par les plantes. Donc du coup, meilleure alimentation de la plante, meilleure vigueur, meilleure résistance aux ravageurs, aux stress thermiques, etc. Si on est dans une situation où la productivité était faible, on va augmenter cette productivité. Mais le but n'est pas de chercher la productivité en direct. La productivité qui augmente, ça va être une conséquence de ce qu'on fait. Ce n'est pas notre but premier. Ce qu'on cherche surtout, c'est d'avoir des végétaux en très bonne santé qui nous fournissent une alimentation de qualité.
Dans un document partagé par le producteur de biostimulants Rhizome, lors des journées nationales de la litière forestière fermentée, voici les témoignages que l'on peut lire. Des éleveurs de brebis dans le Rhône avaient de grosses problématiques de coccidiose et un taux de mortalité élevé parmi leurs animaux. En traitant les litières des animaux avec du picou, une LIFOFER deux fois plus concentrée adaptée à l'élevage, et en donnant 5 ml de LIFOFER pur à la naissance par voie orale, la mortalité suite à des coliques diminue de près de 80%. Les coccidioses diminuent de 50% et les plaies purulentes et abcès cicatrisent mieux. Un éleveur d'Indre-et-Loire observe, en pulvérisant une fois par semaine l'air paillé de ses vaches, une réduction de la présence des mouches, un meilleur état sanitaire global des animaux et une diminution nette des mammites.
Mais on commence à avoir des résultats intéressants et sur grande culture, par exemple, lors des journées LIFOFER, on a eu un partage très intéressant de la part d'une agglomération, enfin d'une collectivité, donc d'une communauté de communes qui travaille sur la LIFOFER avec des agriculteurs, notamment pour améliorer les zones de captation des eaux, en fait. Et du coup, c'est pour améliorer, pour agir en amont sur la qualité de l'eau, qui travaille avec des agriculteurs. Et ils ont des résultats très, très intéressants qui sont venus présenter. Et donc, ça intéresse, comme quoi, ça intéresse pas seulement les agriculteurs, mais les acteurs publics pour travailler après en amont sur la qualité de l'eau. Donc, sur le changement des pratiques en amont. On pourra reprendre après sur les rendements, si tu veux, mais tu voulais réagir. Parce qu'on était parti sur les rendements en grande culture, mais on a des résultats intéressants sur des plus petites surfaces, notamment sur les mycorhizes avec les cultures d'oignons. Ça a été confirmé avec les salades aussi. On a plusieurs projets qui coïncident sur l'amélioration des rendements, la croissance des bulbes, la croissance végétative et la grosseur des bulbes des oignons. Et notamment grâce à un développement racinaire plus rapide sous l'effet de la LIFOFER. Ça s'est confirmé à différents endroits, notamment dans le cadre d'un projet qu'on a fait au Burkina Faso, au Sénégal.
Ok.
Où là-bas, la LIFOFER s'appelle autrement d'ailleurs, ça s'appelle les micro-organismes autochtones bénéfiques. Voilà, pour l'information. Parce que du coup, on a partagé également, comme on travaille à l'international, on partage aussi ses savoirs. Et d'ailleurs, on n'a pas précisé ça, mais il y a une dimension intéressante de la LIFOFER, c'est que c'est un savoir du sud vers le nord, en quelque sorte. Que nous, on repartage vers le sud. Et c'est open source, bien sûr. C'est-à-dire que tout ce qu'on produit comme connaissance, c'est en libre accès.
Je n'hésiterai pas à partager des ressources.
Des essais ont été menés pour observer l'impact de la LIFOFER sur les qualités agronomiques du fumier. Un litre de LIFOFER a été appliqué par mètre cube de fumier, qui a ensuite été stocké pendant 5 mois en extérieur, dans des caisses en plastique protégées de la pluie. Voici quelques résultats. Le fumier traité est plus sec et moins poisseux que le fumier non traité. La quantité d'azote totale est de 40% plus élevé dans le fumier traité. C'est 56% de plus pour le phosphore, 30% de plus pour le calcium. Il y a presque 3 fois plus de potassium dans le fumier traité à l'alifofère. L'alifofère permettrait ainsi de fertiliser une surface plus importante avec la même quantité de fumier. Des essais fructueux ont aussi été menés sur l'enrobage de semences et sur le rendement du tournesol. Vous pouvez trouver les détails de ces résultats sur le dossier partagé par Terre et Humanisme. Le lien est en description de l'épisode.
En fait, j'ai été impressionnée par la liste de ce que fait la lifofère. Donc, je vais faire une petite liste à la Prévert parce que j'avais juste envie de la déposer ici parce qu'elle est vraiment impressionnante et on pourra rebondir dessus si vous voulez. Je lis deux pages, les pages 100 et 101 du manuel. Donc là, il y a un impact sur la structure, les sécrétions de micro-organismes avec la sécrétion de mucus et de glomaline. L'alifofère permet de diminuer l'érosion, donc augmente la capacité de rétention d'eau, la capacité d'échange cationique. Pour les non-agronomes, il faudra aller regarder un petit peu ce que c'est tout ça. La lutte microbiologique contre les pathogènes. Donc, tu l'as dit, Valo, la dégradation des matières organiques et la disponibilité des éléments nutritifs. Débloque les fins d'azote, lutte contre les mauvaises odeurs des déjections animales. Et vous avez notamment testé avec des chats, et qui on sait très bien à quel point ça pue les déjections de matou. Pour les plantes, ça soutient tous les stades de développement. Renforce la conservation. Il y a une photo où vous pulvérisez de la lifofère sur des pommes qui se conservent beaucoup mieux en étant pulvérisées par la lifofère. Améliore la photosynthèse, renforce le système de défense des plantes, épure les mares, les étangs, les eaux usées, les piscines naturelles, compléments alimentaires, probiotiques pour les animaux, protection des maladies de peau, de plumes, de poils, etc. Dégradation rapide des fumiers, on peut même en mettre dans les toilettes sèches pour limiter les odeurs. Et vous avez même nettoyé un vieux carburateur de moto à la lifofère. J'ai l'impression, alors il ne faut pas dire que c'est le magique, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a tout un univers qu'on peut explorer avec la litière forestière fermentée, quoi.
Oui, j'aimerais bien faire un petit historique là-dessus.
Ouais.
Quand ça nous est arrivé dans les mains et qu'on ne savait pas trop quoi en faire. Donc, on avait des indications sur la matière organique, sur les sols, sur la plante, sur les animaux et sur l'eau. Donc, on a décidé de commencer à travailler dessus. Le plus facile, c'était l'eau. L'eau, on a un résultat très direct. On avait des réserves d'eau qui étaient pleines d'algues en été et qui étaient vraiment une galère pour l'irrigation. Ça bouchait les tuyaux, ça bouchait les gouttes à gouttes. C'était vraiment, dans notre contexte méditerranéen, c'était vraiment une grosse galère l'été. Donc on a essayé la lifofère et on a épuré les eaux. On n'a jamais eu plus de problème d'algues. On a eu une eau claire, translucide, même si elle était légèrement colorée. Donc une eau de qualité pour arroser nos cultures. Donc là, ça commence à nous parler. Et après, on a commencé à travailler sur des sols très dégradés à l'aide des plantes bioindicatrices. C'était une des choses les plus faciles à faire pour nous à ce moment-là. Donc, on a essayé sur plusieurs terrains. Et c'est les plantes bioindicatrices qui nous ont indiqué qu'il y avait une limitation de l'érosion, meilleure disponibilité des nutriments, etc., etc., ce que tu as cité, quoi. On a vu une disparition de l'ambroisie et de la vergerette du Canada et l'apparition de plantes restructurantes. Beaucoup de légumineuses, mais de l'onagre et d'autres plantes aussi. Donc après travailler sur les odeurs, le compost de toilette sèche, forcément on a toujours eu des problèmes d'odeur dans nos toilettes sèches. Tout le monde a eu des problèmes avec des chats, donc c'était facile de voir. Et après j'ai pris le bouquin sur les EM de IGA, qu'on peut trouver partout, un peu partout en France maintenant. Comme les EM, ils utilisent, comme nous, sur la terre, la plante, les animaux et l'eau, ils avaient plein d'indications aussi pour nettoyer les locaux, dépolluer tout. Donc on a fait toute une série d'expérimentations sur différents polluants. On n'a jamais réussi à tuer la lifofère. Dans tous les polluants, il y a des micro-organismes qui se développent et qui commencent à régler le problème. Les micro-organismes sont là depuis des milliards d'années. Il est arrivé des tas de choses sur la planète. Ils sont toujours là, quoi. Donc, on s'est amusé un petit peu à mettre des micro-organismes dans l'essence, dans l'huile de chêne de tronçonneuse, dans de la colle PVC. Et chaque fois, on avait un début de dégradation. Et quand on a discuté avec notre collègue Pierre Christen, qui voulait absolument savoir si c'était la lithosphère qui était efficace ou c'est la matière dans la lithosphère qui travaille. Donc, il voulait stériliser la lithosphère. On n'a jamais réussi à stériliser la lithosphère. Et la seule bonne idée qu'il ait eue, c'était de traiter la lithosphère au rayon gamma pour voir si c'était encore efficace. La vie du sol est increvable. Faites confiance à la vie, ça marche.
Et dans les derniers effets aussi qui nous remontent du terrain, c'est l'effet cicatrisant sur les animaux d'élevage, notamment les poulets. Là, pas plus tard qu'il y a deux jours, donc sur les groupes WhatsApp avec le réseau, il y en a une qui nous raconte, bah, c'était Mylène Souvigné, qui est une régulière du réseau, je dirais, de la Lifofer, qui nous parle de ces poulets qui ont été agressés par un chien. Elle a appliqué, elle a pulvérisé de la Lifofer dessus, et ils ont cicatrisé très rapidement sur les plaies, grâce aux micro-organismes bénéfiques.
Il y a eu un gros travail sur les mycoses des pieds aussi.
Waouh. L'équipe de Terre et Humanisme est en parfaite santé grâce à la Lifofer. Peut-être qu'on peut revenir à comment on l'a fait, parce que moi, ce qui m'impressionne, c'est quand même la qualité de la forêt dans laquelle il faut aller prélever la Lifofer, la diversité des essences qui peuvent être présentes, etc. Pour un agriculteur, jardinier qui souhaite démarrer mais qui n'y connaît rien, quelles seraient les étapes à suivre pour produire et utiliser de la Lifofer? Et je précise, c'est une question de Lucas Didier, qui est agronome au Centre de développement de l'agroécologie. Je l'ai interviewé dans un podcast, dans un épisode précédent sur les thés de compost. Et voilà, il m'a envoyé cette question pour vous.
Ben, la litière de forêt, on va la chercher dans les forêts autour de chez soi, en essayant d'avoir un cocktail le plus représentatif de la végétation qu'il y a autour. On essaye de trouver le maximum d'essences différentes et dans un maximum de milieux. On dit litière de forêt, mais on peut utiliser ça aussi, les feuilles qu'on trouve dans les haies, à condition que ce soit des haies bien larges, qui s'auto-entretiennent, qui soient vraiment bien vigoureuses. Et on va chercher un peu des essences différentes, des bois durs. On va parler par exemple du chêne, du pin, du châtaignier, des choses comme ça, du bambou, où on peut retrouver plein de champignons saprophytes qui sont très très performants pour dégrader les lignines les plus dures. Et puis on va aussi chercher des végétaux beaucoup plus tendres, comme au bord du ruisseau ou dans les haies, tout ce qui est rosacée, les églantiers, les pommiers, mais aussi par exemple le frêne, l'aulne, le noisetier, toutes des choses comme ça, qui sont des espèces qui sont plus endomycorhizées. Et on va avoir une diversité de micro-organismes de notre milieu qu'on va pouvoir réapporter dans le champ. Donc plus on aura de feuilles d'espèces différentes, mieux ce sera. Après, on va mettre du sucre rapide, des sucres lents, les hydrates de carbone. Nous, c'est le son de blé. Et puis, il y a la lignine qui donne un matériau qui est plus lentement digestible. Ça, ce sera la nourriture des micro-organismes. Et on va mettre un petit peu de ferment lactique dedans pour tourner ça en lactofermentation. Ça va nous faire une préparation mère qui est solide et qui est très résiliente dans le temps, qui peut s'utiliser. Dans le livre, je dis l'utiliser dans l'année, voire les deux ans. Mais on a utilisé des vieilles litières qui avaient 5-6 ans. Elles étaient toujours, toujours efficaces. Et régulièrement, je vais prendre une grosse masse de cette matière solide et je vais remettre fermenter dans l'eau avec un petit peu de sucre rapide pour rebooster la fermentation et avoir une préparation liquide qui sera utilisée directement dans les champs, dans les jardins, sur les animaux, sur les composts. Hors de quantité, je vais ramasser à peu près sur 2-3 mètres carrés quelques feuilles à gauche, à droite. 3-4 mètres carrés, je prélève un petit peu. L'ensemble représente 3-4 mètres carrés. Je vais avoir à peu près un peu moins d'une vingtaine de kilos de feuilles mortes pour préparer une cinquantaine de kilos de litière solide qui me permettra de faire 1000 litres de lithosphère liquide. sachant qu'on utilise à peu près entre 30 et 50 litres de lithosphère pur par hectare. Donc 2-3 mètres carrés de forêt me permettent de fertiliser 20 à 30 hectares. Ou alors, si je fais 10 traitements à l'année, ce sera sur 2 ou 3 hectares. On nous a accusé de dévaster les forêts. Si on dévasterait les forêts si on utilisait plus généralement. Nous avons fait des calculs par rapport à la surface agricole française et la surface de forêt en France. On est vraiment loin d'épuiser les forêts. On n'utilise qu'une part vraiment minime de la production de la forêt.
Et c'est une des principales attaques en fait qu'on reçoit. Je pense que c'est une incompréhension de la part des gens. Peut-être qu'ils lisent pas en fait exactement. Ils voient passer litière forestière, etc. Ils pensent qu'on utilise la litière comme paillage. C'est pas du tout le cas. Encore une fois, pour voilà, comme le dit Vallon, c'est une proportion extrêmement faible en fait de feuilles de forêt qu'on utilise. C'est négligeable en fait. Il y a ça et également comme critique ou comme crainte. Il y avait par rapport à la reproduction de pathogènes. On nous disait, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de reproduire des pathogènes? Mais en fait, dans la pratique, à la fois dans les retours terrain, dans notre pratique, et à la fois dans les analyses labo, en fait, on voit que les ferments lactiques ont un effet assainissant, et le contexte d'anaérobie aussi permet de sélectionner, en fait, des micro-organismes bénéfiques, et on retrouve absolument pas de traces d'organismes pathogènes. En fait, on a analysé différentes lithosphères à partir de prélèvements de plein d'endroits différents, en fait, de plein d'écosystèmes divers et variés, en Afrique, en Amérique latine, en France, et en fait, on remarque bien qu'il n'y a pas de prolifération des pathogènes comme ça a pu être dit.
Pour corriger, il y a quand même présence minime de pathogènes dans la solution, mais comme partout dans tous les sols et comme en nous, c'est le terrain qui est sain, donc le pathogène ne peut pas s'exprimer. Et même si on trouve des traces minimes de pathogènes dans la lithosphère, ils sont complètement amoindris et complètement inefficaces.
Ok.
Oui, non, je ne sais pas si c'était ta question, mais on était sur la conception de la lithosphère. Du coup, en fait, les étapes, elles sont très bien résumées, soit dans le manuel de la lithosphère, soit dans le petit guide qu'on a mis sur le site internet. Dans la rubrique lithosphère sur nos projets en France. Et autrement, il y a des formations toute l'année à Terre et Humanisme et un peu partout en France maintenant autour de la lithosphère. Et on estime que, idéalement, en 2 jours, on peut être vraiment autonome dans la fabrication, l'application de la lithosphère. Mais on fait également des formations sur une journée.
Ouais. C'est parfait que tu dises ça parce que on est déjà à 50 minutes et j'ai pas envie de déborder. C'est l'objectif de cet épisode, c'était vraiment d'ouvrir le sujet. Donc il y a plein de manières d'aller approfondir via vos ressources, les formations, comme tu dis, le réseau. J'ai quand même 2-3 petites questions pour terminer. Quid du changement climatique? Est-ce que la lithosphère peut aider les plantes? On en a déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure, à mieux la réponse est dans la question, à mieux vivre la période de changement climatique qu'on vit. J'ai notamment lu dans le bouquin qu'il y avait l'acide abscisique qui est produit dans la lithosphère qui peut soutenir les plantes.
Oui, tout à fait. Il y a des hormones végétales, et ça c'est une grande découverte du laboratoire, il y a des hormones végétales qui sont produites par les micro-organismes, chose qu'ils ne savaient pas. Donc on retrouve effectivement certaines hormones végétales qui vont protéger celui-ci contre la sécheresse, contre les coups de chaleur, mais aussi contre le froid, l'aider à passer toutes les étapes climatiques en cours de saison, et puis l'amélioration des sols aussi. L'amélioration des sols fait une meilleure résistance à la sécheresse, une meilleure disponibilité à l'eau, les racines descendent beaucoup plus profondément dans les sols, les champignons peuvent aller en profondeur, chercher de l'eau et les remonter aux végétaux. Donc ça nous semble une bonne piste.
En particulier
de
sur la formation de micro-agrégats dans le sol et la porosité des sols. Et donc ça permet de débloquer des sols parfois. Et vraiment, le changement est visible en quelques mois sur l'amélioration de la texture et l'amélioration de la faculté à travailler le sol derrière. Mais sinon, on peut citer des exemples concrets avec le monastère de Solan, peut-être, Valo, comme tu connais bien ce cas.
Oui, le monastère de Solan, ben, le jour où tu viendras en Ardèche, il faudra que tu dire bonjour à nos amis les sœurs. C'est un domaine en agroécologie d'une quarantaine d'hectares, je crois, qui travaille aussi bien sur la vigne, l'arboriculture, le maraîchage, les plantes médicinales. En fait, elles sont très autonomes sur ce monastère. Et elles utilisent la lifofère maintenant depuis à peu près 5 ans, je pense. Et elles ont vu vraiment une grosse résilience de la vigne aux épisodes caniculaires du mois d'août. Quand on se promenait dans le côté d'Uzès, ça c'est le duché d'Uzès, toutes les vignes étaient en souffrance et on voyait au monastère de Solan que la vigne était vigoureuse, les feuilles dressées vers le soleil. Et voilà, elles ont eu des super résultats. Une meilleure résistance au mildiou qui fait qu'elles ont pu descendre les quantités de cuivre. Déjà, elles n'en utilisaient pas beaucoup parce qu'elles avaient des bonnes pratiques agroécologiques, mais elles en sont descendues jusqu'à une dose de, je crois que c'était de 20 à 40 grammes de cuivre hectare. Ce qui est vraiment très, très, très faible. Pour nous, elles sont pionnières vraiment dans ce sens-là. Et peut-être qu'un jour, elles arriveront à travailler sans cuivre.
Selon vous, est-ce qu'un jour, on n'aura plus besoin d'utiliser de la lifofère? Dans un monde où la diversité végétale d'arbres est très grande, qu'est-ce que vous en pensez?
Dans un paysage bocager où en agroforesterie, où il y a beaucoup, beaucoup d'espèces végétales, une grande biodiversité végétale, avec une grande biodiversité animale, bien sûr, là, bien, un jour, on espère ne plus avoir besoin de lifofère.
Alors, ma dernière question, c'est qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui sont dans un processus pour peut-être un jour devenir paysan ou paysanne?
Allez-y, faites-vous plaisir.
Bah, ouais, peut-être de ne pas rester dans son coin. Nous, on essaye de défendre une agriculture en collectif à travers le partage de vie, le partage de connaissances, bien sûr. Mais la solidarité également est très importante. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent revenir à la terre, mais concrètement, ça reste parfois difficile économiquement, professionnellement, et que en fait, il faut aller vers le renforcement des formes collectives d'agriculture. Et voilà, on réfléchit tous à ça. Et nous, c'est pour ça qu'on a lancé la Noria aussi, la ferme dans le nord du Gard, ferme maraîchère de 4 hectares, où on veut installer un collectif de paysans. On a déjà commencé la production. Mais voilà, c'est une expérimentation de la vie en collectif sur une ferme et du travail en collectif avec différents ateliers, mais également différents métiers et avec des projets de solidarité avec le territoire où finalement la ferme n'est pas isolée sur le territoire, mais elle est vraiment véritablement ancrée dans les problématiques de son territoire, qu'elles soient environnementales ou sociales ou économiques. Donc ouais, on leur dirait essayez le plus possible de vous imprégner en fait de votre territoire. Et des personnes aussi qui veulent faire la même chose que vous, ou des personnes qui veulent être solidaires, en fait, du monde paysan. Et il y en a de plus en plus. Et c'est comme ça qu'on y arrivera, peut-être, et qu'on arrivera à consolider plein de petites exploitations partout sur le territoire.
Oui, c'est pour ça que je parle aussi beaucoup des fêtes des plantes et des bourses d'échange. Bourses d'échange de semences, bourses d'échange de boutures, etc. Donc ça nous permet de nous fournir en semences et en plants beaucoup moins chers, d'être beaucoup plus autonomes, d'être dans le partage, mais c'est aussi des occasions de rencontrer des gens qui ont la même passion et d'échanger trucs et astuces vis-à-vis du changement climatique, vis-à-vis d'une problématique locale, etc. quoi. C'est des journées vraiment enrichissantes. Ne pas rester dans son coin, mais partager un maximum.
Et il y a plein de choses qu'on peut mutualiser. Il y a les connaissances, mais il y a aussi les biostimulants comme la lifofère ou les outils, par exemple.
Waouh, merci beaucoup pour tout ça. C'est vraiment extrêmement riche. J'adore. Je vous laisse le micro si vous souhaitez partager le mot de la fin.
Bah, venez nous voir en Ardèche et dans le Gard. Vous êtes bienvenus.
Voilà, bienvenue dans l'Ardèche et dans le Gard. On vous organisera une petite visite des lieux alternatifs du coin.
Encore un grand, grand merci à tous les deux pour tout ce travail, pour votre temps ici, dans le podcast Agroécologie Voyageuse, et de faire partie de cette belle association qui fête bientôt ses 30 ans. J'ai vraiment hâte de venir vous rencontrer. et je vous dis à bientôt.
Merci Opaline, et puis quand tu veux, au plaisir. T'attends.
Et bon courage pour trier tout ça.
Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode ? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le Mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre.